Il s'est révélé. Verset 8, il est compatissant, l'Éternel est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère, riche en bienveillance. Et on trouve cette phrase-là, je ne sais pas combien de fois, dans l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes, mais aussi dans d'autres textes, des prophètes par exemple. Verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, heureusement. Et il ne nous rétribue pas selon nos fautes, heureusement. Verset 11, sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Remarquez bien qu'il n'y a rien entre la bienveillance de Dieu, la bénédiction de Dieu et la crainte de Dieu. Ou on peut dire le respect de Dieu. Verset 13, il a compassion de ceux qui le craignent. Verset 17, la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et on a parlé de bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien à long terme, si vous voulez, des autres. Mais il parle aussi de justice, sa justice pour ses fils et leurs fils, verset 17. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. Donc il y a un lien entre l'amour et la justice, il y a la sainteté de Dieu ici. Pour le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe a écrit ce texte dans le contexte de la captivité babylonienne qui aura lieu 150 ans plus tard. Donc nous avons une prophétie de l'avenir ici, parce qu'Ésaïe a écrit 150 ans avant la captivité babylonienne du peuple juif. Écoutez ce qu'il dit, lisez avec moi. 46, 3 à 5. Écoutez-moi, maison d'Israël, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore porter, soutenir et libérer. À qui me comparez-vous et me rendez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Bon, Dieu a porté son peuple. Quand on lit l'histoire d'Israël dans les prophètes, même avant les prophètes, dans les rois et les chroniques de l'Ancien Testament, dans Samuel aussi, il est frappant le nombre de fois que Dieu a dû secourir son peuple, qu'il était là pour les soutenir quand ils avaient besoin de lui, quand ils étaient faibles, quand ils étaient dans le mal. Et là, il était là pour être en aide. Donc, il a porté son peuple. D'abord, je trouve cette image réconfortante, car Dieu était en train de dire à son peuple que pour eux, il était comme un père. Il est un père. Et ensuite, ce qui le diffère d'un père humain, Dieu soutient son enfant aussi dans sa vieillesse. Ça souligne l'éternité de Dieu, qu'il est l'Éternel. Parce que moi, je suis père. Quand mes enfants sont vieux, je ne serai plus là. Mais Dieu est toujours là. Et là, il soutient toujours. Donc, c'est une image de présence constante que Dieu donne ici à travers son prophète. Nous avons ici une relation d'amour. Une relation d'amour et de soin. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Et puis, troisième passage, qui nous montre que Dieu aime, se trouve dans cette prophétie de Néhémie, où Néhémie a prié dans une partie de sa prière. Il a parlé des péchés de ses ancêtres. Donc, ça c'est, si vous voulez, une prière de souvenir. Bon, il faut lire toute la prière entière, pour avoir tout ce qu'il dit, mais une partie, il s'adresse à ce qu'ont fait ses ancêtres, versets 16 à 21. « Mais eux et nos pères furent présomptueux et raidirent leur nuque. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque. » Et dans leur rébellion, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Il parle ici de la sortie d'Égypte. Okay? Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant, qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Tu ne les as pas abandonnés. même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, en disant, voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte, et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages. Dans ta compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider le jour dans le chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement, tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Bon, dans cette partie de la prière, Néhémie a donné un résumé donc des 40 ans après la délivrance de l'esclavage en Égypte, où Dieu a été maintes et maintes fois patient avec ce peuple, parce que souvent il se rebellait soit contre lui, soit contre Moïse, celui qu'il avait choisi. Il a raconté la même compassion et la même patience divine qui ont duré des siècles, même en face de la présomption d'Israël, comme il dit dans ce texte, et en face de sa rébellion continuelle. Parce que quand on lit l'histoire d'Israël, on est frappé par le manque de fidélité à Dieu, leur rébellion contre lui. Et je me demande comment Dieu a pu être aussi patient avec eux. Je ne suis pas patient comme ça avec mes enfants, mais Dieu, heureusement, est plus patient que nous. C'était l'amour de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Bon, dans tous les trois passages, psaume 103, Néhémie et Isaïe, nous sommes rappelés de trois choses. Et là, je vais tirer des petites leçons pour nous, ok? D'abord, comme Dieu a toujours été avec son peuple Israël, dès la création de la nation jusqu'à sa fin, il sera patient et compatissant avec nous jusqu'à la fin de nos jours, si nous le craignons. Il y a toujours la condition. C'était la même chose avec Israël, c'est la même chose pour nous. Son amour est un amour de longue haleine. Ensuite, deuxième leçon, nous sommes rappelés que, comme avec Israël, malgré nos fautes, son amour et sa patience sont tels qu'il fera tout son possible pour nous rappeler à lui. Si nous sommes fautifs, si nous sommes pécheurs, si nous sommes rebelles contre Dieu, dans son amour, il va faire ce qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, pour nous rappeler à lui, comme il a fait avec Israël. Ça peut être à travers une lecture de la Bible, on se rend compte soi-même. Ça peut être à travers le rappel d'un frère ou d'une sœur, quelqu'un qui nous connaît, que nous connaissons, qui nous aime et qui nous rappelle notre condition devant Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et troisièmement, il y a la pensée réconfortante que Dieu se rappelle que nous sommes poussière. Il reconnaît nos faiblesses, car nous sommes ses créatures, ses enfants. Il sait de quoi nous sommes formés. C'est lui qui nous a fait. Et ainsi, il connaît comment c'est pour nous. Pas seulement cela, plus tard, il est même devenu homme afin que nous comprenions qu'il peut nous comprendre. Dieu s'est fait chair. L'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 2 et aussi au chapitre 4, nous explique que Jésus a vécu en tant qu'un homme afin de savoir comprendre nos faiblesses. Et afin que nous puissions comprendre qui comprend aussi. Ainsi, dans l'amour de sa sainteté, Dieu ne s'attend pas à l'impossible avec nous. Il ne s'attend pas à l'impossible, mais sa justice, quand même, parce qu'il y a des deux côtés, l'amour et justice de Dieu, sa sainteté s'attend à l'effort. Il ne s'attend pas à l'impossible, mais il s'attend à l'effort. Dieu ne s'attend pas à l'impossible, mais il s'attend à la volonté de vouloir faire quoi dont nous sommes capables. Et de faire le bien. Et d'être juste. Si vous voulez savoir ce que Dieu attend de nous, lisez les prophètes. Il y a par exemple le prophète Amos, je le cite souvent, qui traite le problème de l'injustice entre les hommes. Et si on veut être en bon rapport avec Dieu, si on veut avoir une bonne relation avec Dieu, il faut être juste avec notre semblable. Il faut s'occuper d'eux. Donc Dieu ne s'attend pas à l'impossible, mais il s'attend à la volonté de vouloir faire quoi dont nous sommes capables. Dieu, dans son amour et sa justice, nous tient à être responsables pour les choses dont nous sommes capables de comprendre et de faire. Et là, je vous donne le texte en Deutéronome, chapitre 29, verset 28. C'est dans le contexte de la loi de Moïse, mais le principe, je crois que ça s'applique à nous aussi. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bref, si Dieu n'avait rien dit, nous ne serions pas responsables. Mais, puisqu'il a dit quelque chose, puisqu'il a donné sa volonté, puisqu'il s'est révélé, puisqu'il a donné ses commandements, puisqu'il a fait quelque chose, nous avons grande raison pour le mettre en pratique. Autrement, nous n'aurions pas d'excuses devant Dieu. De ce fait, souvent par le même acte, et je vais répéter ceci plus tard dans la deuxième partie de l'étude, souvent par le même acte, Dieu sauve une personne et condamne une autre, par le même acte. Ou il bénit une personne et maudit une autre, par le même acte. Et nous verrons un exemple de cela dans la deuxième partie cet après-midi. Donc, pourquoi? On peut se demander pourquoi. Parce qu'une personne a bien agi ou bien réagi et l'autre ne l'a pas. Sa sainteté l'oblige à accorder ce qu'une personne aurait choisi. Et donc, il faut faire très attention à nos prières, n'est-ce pas? Parce que si on demande quelque chose à Dieu, ou si on s'engage à faire quelque chose, il va attendre qu'on remplisse notre engagement, des choses comme ça. Et si nous ne sommes pas obéissants à ce qu'il demande à nous de faire, il y a une conséquence qui vient à cause de ce mauvais choix, il va nous donner ce que nous avons choisi. Donc choisissons bien entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons faire. Il faut choisir pour Dieu, n'est-ce pas? Mais dans la deuxième séance, nous verrons quelques actions spécifiques de l'amour de Dieu. Ce que j'ai donné maintenant, c'est plutôt une introduction, ce qu'on va voir dans la deuxième heure. J'aimerais prendre quelques minutes, si vous voulez, si vous avez des commentaires, des questions à faire. Oui, on peut couper. Sinon, on va s'arrêter, on va faire une petite pause.